Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi, comme tous les soirs, de vous retrouver pour votre libre antenne en direct sur votre radio Europe 1 et qui va vous emmener jusqu'à 1h du matin. Alors installez-vous confortablement chez vous, vous faites comme vous aimez et puis vous écoutez toutes celles et ceux qui vont ce soir se raconter. Et là je parle bien évidemment de vous, de votre vie, de votre quotidien. Tout ce que vous avez envie de nous raconter ce soir, de nous livrer de vous, eh bien, ça fera résonance chez pas mal de toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, à composer le 3921. Vous composez aussi le 73921 par SMS, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous écrivez à lalibreantenne@europe1.fr. Et puis, toujours notre groupe de parole, La Libre Antenne, Olivier Delacroix, Sabine Marin. Vous nous contactez et vous échangez avec Natacha et Florian, qui se feront un plaisir de vous rappeler et puis d'échafauder votre passage à l'antenne. Mais pour l'heure, n'hésitez pas. Nous sommes ce soir tout à fait ouvert à vos appels. 39,21, 50 centimes d'euros la minute. C'est votre libre antenne. Nous sommes le mercredi 15 janvier. C'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Juliette au 39,21. Bonsoir Juliette.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Ben écoutez, pas si bien que ça. Alors d'abord, je dois remercier la jeune dame qui m'a appelée.
Oui.
Et vous dire qu'elle a été extraordinaire de, par son écoute, n'est-ce pas ?
Oui.
Et vous, Olivier, je vous écoute pas tous les soirs, mais de temps en temps. Et je trouve que vous avez toujours une analyse très pointue des divers cas qui s'offrent à vous. Et surtout, vous avez une empathie qui me touche toujours droit au cœur.
C'est très
et
gentil.
Et donc, c'est
merci.
Pour cela que ce soir, vous m'avez rappelé, il y avait quelques jours que j'étais un peu en désespérance. Et donc, je vous avais appelé
oui.
sur l'antenne. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir Natacha, c'est ça, oui ?
Oui, c'est
et,
ça.
Et donc, je lui ai expliqué, évidemment, ma détresse.
D'accord.
Voilà.
C'est pour cela que je rappelle souvent que oui. il ne faut pas hésiter à nous appeler, à nous écrire, parce que vous êtes très nombreux chaque soir à nous appeler
ouais.
et nous essayons de, bien évidemment de remplir notre rôle qui est le nôtre, de pouvoir à un moment vous faire passer à l'antenne. Donc je suis voilà. ravi de vous avoir.
Je vous remercie infiniment. Donc je vais essayer d'être le plus brève possible, n'est-ce pas, pour ne pas réquisitionner l'antenne, parce que bon, je ne suis pas la seule à avoir du malheur sur cette terre. Cette terre est faite actuellement de beaucoup de malheur, presque que du malheur.
Mais prenez tout de même votre temps, hein, Juliette. Hein.
Voilà.
Hein.
Donc, voilà, je suis une grand-mère avec trois petits-enfants. Et donc, j'ai ma petite-fille de 31 ans. Qui est en ménage avec
oui,
un
oui.
garçon de son âge, n'est-ce pas ? Qui a eu un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui est magnifique, voilà. Et elle s'est toujours sentie un peu grosse, comme on va dire, vraiment grosse, quoi. Elle était mal dans son corps. Donc en 2019, elle a démarré l'année, comme souvent on le fait, avec voilà, un but. Cette année, je vais faire du sport, je vais maigrir, etc.
Oui.
Et elle s'y est mise pendant, voilà, jusqu'au mois d'octobre où elle a perdu petit à petit 10 kilos.
D'accord.
Et puis, elle était contente, quoi, ça marche, le régime, elle ne mangeait presque rien, donc ça c'était un peu catastrophique. Mais enfin, elle n'est pas facile à gérer, malgré qu'elle ait 31 ans. Donc, non, mais ça suffit, bon. Et puis, au mois d'octobre, elle a commencé à avoir des maux de ventre violents. Elle avait eu une césarienne pour l'accouchement de son petit garçon.
Oui.
Elle était allée voir le gynécologue. Bon, il n'y a rien de particulier. Et puis après, un jour, sur le lieu de son travail, elle a eu une hémorragie terrible. Donc là, elle a quitté son travail. Elle est allée en urgence voir son gynécologue. Et là, il a dit, c'est pas normal. On doit vous faire des examens. Il a été très percutant. Il n'a pas attendu, 15 jours ni même 7.
Oui.
Ça a été fait dans la foulée.
Oui.
Elle a eu de la chance. Et donc, elle a eu un premier IRM où on voyait deux grosseurs, une de 10 et une de 8, voilà, sur les ovaires. Après, il a dit, je ne sais pas trop exactement, on attend un peu, on va voir s'il y a une évolution, mais c'est déjà très, très gros. Il a fait faire un autre IRM, et là, bon, c'est l'utérus qui est énorme, et il décide donc de lui faire un prélèvement.
Mmh.
Et on attend 15 jours, comme il se doit, n'est-ce pas? Et au bout de 15 jours, eh bien, ma foi, la sentence, elle tombe. C'était le 24 décembre, je crois. Le 24 ou le 23 décembre 2019, là. Voilà, vous avez un cancer de l'utérus, madame. Donc, le monde s'écroule, n'est-ce pas? 31 ans, un petit bébé.
Oui.
Voilà, donc nous allons faire, je ne sais pas le terme exact, c'est-à-dire il y a sept oncologues qui font une réunion.
Oui.
Pour voir ce que nous allons faire avec vous, parce qu'évidemment, si on vous enlève tout l'utérus, vous ne pourrez plus avoir d'enfant.
Mmh.
Donc, c'est une grande décision à votre âge si jeune.
Bien sûr, oui.
Moi, je vais vous dire, Olivier, mon état d'esprit, moi, de femme, j'ai 76 ans, n'est-ce pas, Olivier? Moi, je me suis toujours dit, dans ma vie de femme, que on considère un peu le ventre d'une femme comme une amphore. Comme si c'était seulement pour faire des enfants.
Oui, oui.
Et on a mis tout de suite un exergue. Ah mais oui, mais si on vous opère, vous ne pourrez plus avoir d'enfant.
Mmh.
Mais elle en avait déjà un.
Oui.
Et si on a vraiment la fibre maternelle ou un cœur grand comme une maison, n'est-ce pas? Et qu'on est vraiment en manque d'enfants, il y a assez d'enfants qui n'ont pas de parents pour qu'on en accueille un comme le sien. Comme dit la chanson là de ce... Voilà, j'aime prendre un enfant par la main,
oui,
et l'aimer comme le sien. Voilà. Moi, pour moi, ça n'a jamais été le problème. Le problème, c'était que, voilà, on met tout de suite en exergue ce truc-là.
Au lieu de lui parler de l'essentiel, qui est de la vie, la vie.
C'est... Voilà, de sa vie à elle.
Oui.
Et qu'elle doit rester en vie pour élever son enfant. Celui qu'elle a actuellement.
Exactement.
Et elle aura toujours le temps d'avoir un deuxième enfant. Vous savez, Olivier, dans ma vie, j'ai été famille d'accueil, j'ai eu peut-être plus de 50 enfants. Et c'était des étudiants étrangers, c'était dans un autre contexte.
Oui.
Je les ai tous aimés, tous. Ils disaient, voilà, tu es notre maman de France. Parce que mon cœur et que j'aime les enfants par-dessus tout. Ça, c'est la parenthèse. Bon. Mm-hmm. Donc, on met en exergue ce truc. Et puis, ils font la réunion. Et ben, une première réunion, une seconde réunion. Et à la seconde réunion, ils lui ont dit, madame, il faut vous opérer, il faut enlever tout l'utérus.
Oui.
Voilà. Et voilà. Alors là, ça commence le problème. Elle demande qu'on lui refasse un IRM. On accède à sa demande. L'IRM, ça avait augmenté de 30%.
Oui.
Dans l'espace de très peu de temps.
Donc, ce qui,
sa tumeur, 30%. C'était énorme.
Ce qui traduisait tout de même la gravité de...
ce qui traduit la gravité. Ouais, hein, ce qui traduit la gravité de la chose. 33%, bon voilà, ça faisait des boules de 10 cm, et ben ça faisait 13. Et pour celle de 8, et ben ça faisait 11. Voilà, point barre. Et là... mon Dieu. Et là, elle commence... Là, il n'y a pas encore de date, parce qu'on lui parle donc de l'opérer, mais il n'y a pas de date définie de l'intervention. Y a, voilà. C'était le moment des fêtes, donc, vous voyez, voilà. Bon. Et là, elle commence, Olivier, à partir chez des guérisseurs. Et elle fait le tour de France des guérisseurs. D'abord, elle a fait le tour de France, le tour du département où nous sommes.
Oui.
Hein, je suis assez discrète parce que j'ai peur qu'on m'écoute. Voilà. Mm-hmm. Donc, le tour de France de notre département. Le tour de notre département. Et puis, je vous dis le tour de France parce qu'on est allé jusque dans des départements, je ne vous dis pas, qui sont à 400 km de chez nous, à 350 km de chez nous. Et maintenant, le dernier qu'elle va voir, alors ça, c'est ce qui est le plus grave, et c'est ce que je veux dénoncer ici sur l'antenne, c'est qu'il y a des médecins nutritionnistes qui se permettent de dire qu'avec des régimes alimentaires à base de légumes, surtout de légumes, n'est-ce pas, et de bannir toute protéine, tout ce qui est animal, une alimentation faite que de légumes, de jus, de fruits, etc. Et ce sont des médecins nutritionnistes qui disent qu'avec ça, les cellules cancéreuses vont se réduire et qu'évidemment, vous pouvez presque guérir du cancer.
Alors, Juliette, on va marquer une petite pause et puis on va continuer à parler
d'accord.
de votre petite fille et surtout de continuer de parler de ce que vous soulignez qui est extrêmement grave.
C'est très grave. Parce que nous, on ne le savait pas, Olivier, mais c'est son gynécologue qui nous demande de faire en sorte de trouver le nom de ce médecin, c'est une dame qui est proche de Paris, pour la dénoncer à l'ordre des médecins. Mais il nous a dit, c'est pas la seule. Il y en a plein qui font ça. Mmh. C'est une question, c'est un business.
Alors, vous allez me raconter ça parce que moi, je découvre
allez-y,
ça. On fait une petite pause et on se retrouve
Je vous en prie, Olivier.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Nous parlons de vous, de vos vies ce soir et nous parlons avec Juliette qui évoque l'histoire, la vie de sa petite fille de 31 ans à qui on vient de découvrir un cancer de l'utérus ce cancer de l'utérus qui est très, très là. Il va très vite ce cancer.
Oui.
Il est très, très vaillant et cette petite fille fait... le tour depuis quelques semaines des guérisseurs. Alors, ce qui est extrêmement grave, bien évidemment, ça, déjà. Et vous allez me dire d'où ça vient, ça, déjà, Juliette. Et puis, vous avez évoqué ensuite des nutritionnistes.
Alors, il y a les guérisseurs. Alors, la nutritionniste, c'est la première nutritionniste qu'elle va aller voir, qui est dans la région parisienne, n'est-ce pas ? Et là, bon, ben, on ne sait pas ce qu'elle va lui dire. Par contre, tous les guérisseurs, on n'est pas avec elle. Je dois vous dire que nous sommes une famille très, très soudée, qu'elle a un papa et une maman qui sont séparés, mais dont les conjoints respectifs aiment ma petite fille comme leur fille. Et que la fratrie, qui est de trois, puisque j'ai un petit-fils issu de l'union du papa de ma petite-fille, n'est-ce pas ? Vous voyez, je vous dis ma petite-fille.
Oui.
Bon, voilà.
Oui.
Il a un enfant qui est de 14 ans avec ma fille. Voilà. Donc, c'est une fratrie de trois enfants. Et il n'y a que de l'amour chez nous. Donc, le papa est très bien accompagné par ma fille et la maman, elle est très bien accompagnée par le monsieur avec qui elle partage sa vie. Et le papa et la maman, ils sont en communication tous les jours par rapport à leur fille. Mmh. Et ils vont l'accompagner à tous ses rendez-vous avec le compagnon de ma petite fille.
Oui, oui.
Hein? Ils ne la laissent pas face à face avec son compagnon, parce que c'est tellement douloureux, et puis ils veulent savoir ce qu'elle raconte,
oui,
comprenez,
oui,
aussi. Bon, alors elle ne raconte rien, et bien sûr qu'elle ne va pas dire « je vais voir des guérisseurs ». Donc moi j'ai dit à ma fille « écoute-moi, il ne faut pas le cacher ça, ni au gynécologue, ni au chirurgien, il faut les en aviser ». Elle m'a dit, tu crois, maman, et tout. J'ai dit, écoute, Caroline, maman, elle a beaucoup d'expérience de la vie et je pense beaucoup de bon sens. Il faut le faire. Et quand elle est rentrée chez elle, elle en a parlé avec son époux et il a dit, ben, fais-le si tu veux. Elle a appelé donc son gynécologue et il lui a dit, oh, merci beaucoup de m'avoir appelé. Je vais appeler tout de suite le chirurgien pour l'avertir de l'état d'esprit, quoi, de voilà. De cette jeune femme. Et elle est venue tout de suite à la maison, parce que nous habitons à côté, et elle m'a sauté au cou, et elle m'a dit, maman, je te remercie, tu vois, tu avais raison, il fallait qu'on les avertisse, voilà. Donc, elle va donc chez, moi je dis, c'est des sorciers, c'est des gens qui se font de l'argent par rapport à l'ignorance, quoi, ou comment vous dire. Je comprends, Olivier, que ma petite fille, elle soit désespérée et qu'elle se tourne vers tout ce qui peut exister. Mais j'aimerais qu'elle fasse ça, si elle en a envie de le faire, mais surtout qu'elle écoute d'abord les médecins et qu'après, peut-être, elle aille voir ces gens-là. Mais ces gens-là, ils sont nuisibles parce que... ma petite fille, qui était une fille un peu ronde, vous voyez, mes tailles, je vais vous dire par taille, parce que les kilos, je ne connais pas.
Oui, oui.
Ben voilà, elle faisait une taille, on va dire, 40 et demi, 40 et demi.
Bon,
elle se trouvait grosse par rapport aux filles d'aujourd'hui,
oui,
qui font 36, 34,
mais...
comme vous le savez,
bon,
et 38.
On est d'accord que
voilà.
40, ça n'est pas d'abord, ça n'est
alors,
pas une catastrophe.
C'est pas gros. 40, c'est pas gros.
C'est pas gros, c'est
surtout
normal.
Surtout quand tu fais 1m67.
Oui, 1m67, 40, donc
elle
était très bien proportionnée.
C'est une belle femme, c'est une très belle jeune femme.
Elle
voilà.
était très bien proportionnée, votre
Elle était très
fille.
Bien proportionnée. Alors, je dois vous dire que depuis qu'elle est allée voir tous ces gens-là, depuis 2 mois, eh bien, maintenant, elle avait maigri presque de 10 kilos, je vous l'ai dit, mais on ne sait pas si c'est le sport ou la maladie qui était en train de la grignoter. Il y a les deux, hein, certainement, et le sport,
oui,
et
oui.
la mauvaise alimentation qu'elle s'infligeait pour maigrir, elle ne mangeait rien. Et ensuite, bon, le crabe qui était là. Voilà, donc 3 ingrédients parfaits pour maigrir. Mais là, maintenant, elle en est à la taille, tenez-vous bien, XS. C'est-à-dire qu'elle rentre pratiquement dans un pantalon du 24. Taille 24, c'est-à-dire
taille
une enfant
24,
de 14
oui.
ans.
Oui.
C'est une catastrophe. On ne lui voit que le nez et les dents. C'est
oui,
tout.
Oui.
Voilà. Elle a un amaigrissement terrible. On ne la reconnaît plus.
Bon, mais
bon.
Qui est sûrement aussi dû,
mais
Juliette,
dû.
Au
alors,
stress et à la peur, parce que
oui.
elle doit avoir peur de tout
elle
ça.
Elle doit avoir peur. Écoutez, on se demande. Parce qu'elle est dans un état d'euphorie qui n'est pas normal.
Ah bon ?
Oui. Alors, elle est très euphorique. Donc, elle va voir tous ces gens. Tous les jours, elle nous dit « j'ai des petits rendez-vous ».
Oui.
Alors elle va, elle prend sa voiture, elle met son enfant à la crèche, elle va à ses petits rendez-vous.
Mmh.
Après, elle va faire du shopping. C'est une fille qui n'était pas dépensière du tout. Maintenant, c'est pas qu'elle craque, mais elle se régale de s'habiller en la taille XS.
Oui. Alors,
pour elle, c'est une victoire. Elle est enfin mince.
Oui, oui. Mais...
Et son compagnon,
oui,
qui rêvait d'avoir une femme sylphide, maintenant, il la promène comme si c'était un trophée.
Bon, alors on va discuter. On va parler, Juliette. Il y a beaucoup de choses à dire et...
Oh là là,
on doit se dire beaucoup de choses. Mais moi, je sais, pour le coup. Je vais un peu vous dire deux, trois trucs quand même.
Alors, dites-moi, s'il vous plaît.
On marque une pause et puis on se parle tout de suite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Juliette sur votre libre antenne. Juliette, nous parlons de votre petite-fille ce soir.
Olivier, est-ce que vous permettriez que je vous dise un dernier détail ?
Allez-y.
Hein ? Et après, vous prendrez la parole très gentiment comme vous le faites.
D'accord.
J'ai omis de vous dire que depuis qu'elle fait ses petits rendez-vous, elle fait des diètes complètes de... 3 jours, 4 jours sans rien manger. Alors, elle fait des diètes complètes, ce qui fait que ses analyses, eh bien, ma foi, il lui manque du fer. Elle n'a plus de globules rouges, elle n'a plus de globules blancs. Voilà. Elle est vraiment dans un état... Mais malgré tout, je vous dis, elle a cet état euphorique. Mmh. Voilà. Parce que elle se sent belle, elle se sent mince.
Oui.
Voilà. Et donc, voilà. Et aussi, je dois vous dire qu'on lui a fait un autre IRM, mais alors à 15 jours enfin 15 jours après un précédent IRM.
Oui.
Et donc, comme elle a vu, alors oui, elle est allée voir le chirurgien, elle a fait sa visite pour l'anesthésiste, le chirurgien lui avait dit « je vous donne 3 dates à choisir, 15, 16 ou 17 pour vous faire opérer », elle a choisi le 17. Elle a eu les résultats de l'IRM et quand elle a vu que sa grosseur n'avait pas augmenté, mais ce n'était pas possible dans 15 jours que ce soit que ça augmente, quoi, que ce soit significatif sur un IRM, peut-être il y avait un demi millimètre, vous voyez, bon, on ne voyait rien. Eh bien, écoutez, elle s'est permise, elle a appelé le chirurgien, elle a annulé son intervention. Le chirurgien, quand il s'est rendu compte de ça le lendemain, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a appelé personnellement à son domicile. Il lui a dit « Madame, vous êtes en danger. Si vous ne vous faites pas opérer, je serai obligée de vous enlever peut-être après un morceau de la vessie ainsi qu'un morceau du côlon. » Elle lui a dit « Monsieur, moi, je ne me fais pas opérer pour l'instant, parce qu'elle croit plus en tous ces gens qui la manipulent, qui lui ont tourné le cerveau, et elle a tourné le cerveau également à son compagnon, parce que lui, il n'était pas adepte comme elle. Elle ne mange pas de viande parce que c'est de la viande morte. Elle en donne même plus maintenant à son fils, dont elle va nous le mettre carencé. Elle est bio à 300%. Alors que, bon, le bio, il y a à boire et à manger, comme vous le savez, Olivier. Un terrain, je vais le dire à l'antenne pour que les gens qui m'entendent, ils sachent ça, parce que l'ignorance, c'est la pire des problématiques chez l'être humain. Un terrain qui n'est pas resté plus de 10 ans en herbe, sans culture aucune dessus, pour qu'il se reconstruise, si on plante dedans, ce qu'on plante ne sera jamais bio. Donc du bio, il y en a, mais très, très peu. Mmh. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et donc, elle est dans le bio. Elle est maintenant, la viande, c'est de la viande morte, etc., etc. Et donc, tous les régimes que lui ont donné ces gens-là, qui sont à base, attendez, de fruits, mais pas de la pulpe, hein, passés à la centrifugeuse, donc, est bu en jus, c'est-à-dire que si elle ne prend pas son jus dans les minutes qui suivent, on sait très bien qu'un jus pressé, quand il a été pressé, il perd toutes ses vitamines.
Alors, Juliette.
Dans le temps, dans un très court laps de temps.
Oui, exactement. Alors,
par
Juliette,
exemple, le
Juliette,
jus d'orange.
Écoutez-moi.
Voilà. Donc, voilà.
Juliette.
Là, alors là, vous savez tout maintenant. Elle a refusé son intervention. Et maintenant, on n'a pas d'autre solution.
J'ai bien compris.
Voilà.
Son
papa lui a dit, nous faisons beaucoup de soucis pour toi. Et elle a dit, garde tes peurs.
Alors, Juliette.
Voilà.
Vous m'avez dit beaucoup de choses et,
oui.
et le temps passe et
oui,
on va
oui.
se retrouver.
Alors on y va.
On va
oui.
se retrouver après le journal. D'accord ?
Oui. D'accord.
Ok.
Oui.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 4 minutes, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Vous êtes ici, chez vous. Alors, installez-vous, soyez les bienvenus chez vous, parce que nous parlons de vous. Et moi, ce que j'aime dans cette libre antenne, c'est un moment comme ce soir, comme nous sommes en train d'en passer un avec Juliette, où on parle de tellement de choses, où on parle surtout de la vie. De la vie en danger, de la vie avec toutes ces inepties que l'on entend ici et là, liées à l'alimentation, liées à tout un tas de nouvelles modes liées à cette alimentation et qui portent certaines âmes sensibles, et je ne parlerai pas d'intelligence sensible, mais nous pourrions presque, puisqu'on parle de la petite fille de Juliette ce soir et même de son compagnon qui, malgré le cancer de l'utérus de cette femme, hein, puisqu'elle a 31 ans, Juliette, même son compagnon, eh bien, quelque part la confirme hein, dans l'attitude qu'elle a et ne voit plus qu'une femme qui a perdu du poids, une jolie femme qui l'expose à qui veut bien la regarder et qui est fière et qui en oublie... L'essentiel, c'est un cancer déclaré, un cancer qui a déjà fait l'objet d'un collège entre spécialistes qui a décidé d'opérer de manière assez urgente votre petite fille. Et cette petite fille refuse, non seulement elle refuse l'opération, mais elle se met en danger, bien évidemment, et a décidé de croire dans les balivernes de tout un tas de charlatans qui, ici et là, puisqu'elle fait le tour de la France, de ces soigneurs, comme on les appelle, de ces guérisseurs, et qui refusent d'être opérés et qui croient qu'elle peut être sauvée hein, par tout ça. Vous m'avez parlé d'une chose très grave aussi, c'est de certains nutritionnistes qui... lui font croire des choses,
exactement.
Des choses terribles. Alors, il y a beaucoup à dire hein, dans votre histoire, Juliette. Il y a tout d'abord, bien évidemment, les croyances de cette petite fille.
Oui.
D'où viennent ces croyances ?
Je vais vous dire, moi. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas l'évoquer avec mon gendre. Mais chez mon gendre... ils avaient une tante qui arrêtait le feu déjà. Bon. Alors déjà, c'est une croyance, ça. Mais cette croyance, actuellement, elle est utilisée par le corps médical. Il paraît qu'il y a des gens, vous voyez, quand on nous fait, qu'on a le cancer, qu'on nous fait des rayons, on nous dit, si vous avez quelqu'un qui arrête le feu, ça pourrait vous faire du bien. Donc là, vous voyez, c'est un peu... Voilà. Alors déjà, cette petite fille, elle a été confrontée à ça, à cette tati-là qui avait cette faculté à arrêter le feu et que ça marchait. Bon, moi, je ne sais pas plus. Et puis, il y a une autre dame aussi qu'ils avaient l'habitude d'aller voir pour des petits bobos. Voilà.
Mmh, mmh.
Alors, vous voyez, je réponds. Voilà.
Oui. Alors, les coupeurs de feu,
oui.
pour le coup...
Oui.
aussi mystérieux que ce soit.
Oui.
Il se trouve que vraiment, il y a eu des résultats incroyables.
Oui. Incroyables.
Et qui sont sûrement liés. Vous savez, on dit souvent qu'on utilise à peu près 15 à 20% de nos possibilités au niveau de notre cerveau. Et
de notre cerveau, voilà. Complètement.
Bon, voilà. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont un pouvoir, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui fait qu'ils peuvent vraiment couper le feu, comme on dit. Ils peuvent, quand il y a des grandes brûlures...
Oui, je vous dis, c'est recommandé par le corps médical,
voilà,
maintenant.
Et c'est reconnu scientifiquement.
C'est reconnu.
Mais là, bien évidemment, cette petite fille...
Depuis qu'elle est petite, elle entend des choses comme
alors,
ça.
Alors, elle entend ces choses-là, Alors, je comprends que ça ait pu l'ébranler, vous voyez. Elle s'est dit, si quelqu'un est capable avec ses mains, ou même par téléphone, hein, parce que...
À la distance, complètement, voilà. Et ça marche.
Voilà.
Ça, je peux vous le garantir.
Et donc, on tient là le moment qui l'a ébranlé et qui lui a fait perdre toute...
notion de...
Oui,
en
tout cas, qui lui a fait...
croire
la guerre des étoiles, ça pouvait exister, que les magiciens, les sorciers, ça pouvait exister.
Et ça, c'était inscrit dans sa tête.
Des coupeurs de tête, en fait. Coupeurs de tête, excusez-moi. Des coupeurs de feu. Elle a finalement étendu ses croyances
à tout,
parce qu'aujourd'hui, ce dont elle souffre aujourd'hui et le cancer qu'elle a, va la tuer si elle continue à s'obstiner comme ça. Et je sais, j'ai senti que vous le saviez.
Je le sais, le
souci aujourd'hui, je vais vous dire, c'est que vous ne m'avez pas dit une chose. Vous avez parlé de son compagnon, mais ses parents, quelle influence ont ses parents sur elle? Parce que
c'est une enfant qui a été toujours très difficile. Très très difficile, même avec ses collègues au travail. Quand elle était petite, déjà, elle était terrible. Bon, elle n'était pas aimée, vous voyez, d'autres personnes, parce qu'elle était ingrate un peu physiquement, d'après ce que me dit mon gendre.
Oui.
Elle était très ingrate physiquement, alors qu'après, elle s'est développée, elle est une très belle jeune femme avec un beau visage et tout. Et en plus, elle était capricieuse et elle ne se faisait pas aimer, pas du tout. Et on l'appelait même la petite sorcière. J'ai appris ça récemment, vous imaginez.
Ouais.
Et après, en grandissant, elle a fait des études, etc.
Qui l'appelait la petite sorcière ?
Des voisins, etc., qui lui disaient « t'es la petite sorcière
».
Donc, je viens de l'apprendre récemment, il y a 3 jours, ça ne fait pas bien plaisir. Mais bon, c'est des choses qu'on nous dit maintenant. Et après, quand elle est rentrée, elle a fait de belles études, quand elle est rentrée dans le monde du travail, elle est très méprisante. Elle est méprisante avec ses collègues de travail. Je ne veux pas être vulgaire, mais toutes les filles, ce sont des connes. Et son patron, c'est un connard.
D'accord.
Excusez-moi, Olivier, ce sont les termes.
Que fait-elle, Juliette?
Elle est comptable.
Elle est comptable, d'accord.
Elle est comptable, Et son compagnon aussi, mais dans un grade plus élevé.
D'accord.
Ce sont des jeunes qui réussissent très bien. Ils ont eu une maison, ils l'ont vendue. Ils ont acheté notre maison. Ils y sont rentrés le 23 décembre. Eux, ils savent compter. Oui, c'est le cas de le dire. Leur métier, ils savent gérer bien leur vie.
Sauf que ils savent pas gérer leur vie.
Ils savent rien gérer du tout.
Parce que là...
Alors, ils sont ingérables. Vous savez ce que c'est? Ils sont ingérables. La maman... Elle est impuissante. Elle a dit à sa maman il y a 4 jours, peut-être si tu m'avais bien nourrie quand j'étais petite, maintenant je n'aurais pas le cancer. Mmh.
Alors vous savez, ce soir nous avons beaucoup de réactions au 739-21. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont touchés par votre témoignage et je lis juste. Un témoignage qui me semble vraiment pouvoir être une solution parce que votre petite fille aujourd'hui est en danger de mort.
Ben oui.
Elle est en danger de mort parce que elle est sûrement victime d'une anorexie mentale.
Oui.
C'est le sens du SMS qui nous est écrit et ça me semble parfaitement raisonné.
C'est ça, elle reste 3 jours sans manger.
Exactement.
Elle fait des jeûnes.
Elle est convaincue que le cancer est un faux diagnostic et que peut-être maintenant, en vous réunissant avec le père, la mère, faut-il la mettre sous sauvegarde de justice vu son attitude qui la met totalement en danger. Vous voyez, aujourd'hui, Juliette,
Vous me donnez une piste, voyez.
Mais
je suis juriste, vous entendez, mais je n'ai pas eu, j'ai pas pensé à ça.
Mais oui, mais votre petite fille aujourd'hui, elle est malade, mais elle n'est pas malade de.
Que de ça. La tête qui va plus.
Elle a la tête qui va plus.
Oui, mais ça, je l'ai dit à ma fille.
Elle est surconditionnée, depuis son adolescence et même son enfance. Hein, parce que quand on a été appelé la petite sortière, je peux vous dire que ça vous marque.
Oui.
Et que vous avez une sacrée revanche à prendre sur la vie et sur les autres.
Ah oui,
parce que,
je vous ai dit, elle a un tempérament.
Mais
pouf,
oui, parce que lorsque, aujourd'hui, du haut de ses 31 ans, elle juge ceux qui l'entourent, comme vous me l'avez dit, par des noms d'oiseaux, et que finalement, le résultat, c'est qu'elle se sent supérieure à toutes ces personnes.
À tout le monde.
Hein, et que elle se sent même supérieure vis-à-vis des médecins qui lui ont dit
des médecins, des chirurgiens, de tout le monde.
Et ça.
Elle n'a que fille des gens.
Juliette,
elle n'a rien à faire.
Juliette, ça, c'est une attitude qui n'est. Qui n'est pas normal.
Mais non, c'est pas normal.
Et c'est une attitude. C'est une attitude qui est presque suicidaire.
Oui.
Sauf lorsque on admet le fait que votre petite fille souffre vraiment d'une maladie mentale, qui est cette anorexie mentale. Elle est obsédée par son poids.
Oui.
Elle est obsédée par.
C'est pour ça
son
que je vous ai dit qu'elle est très joyeuse.
Mais comment. Je vais vous dire, il y a 4 jours, Juliette, je discutais avec une amie qui a eu un cancer du sein et qui ensuite, une fois qu'elle s'est sortie du cancer du sein, a déclaré un cancer de l'utérus. Hein, elle m'a raconté sa galère, le chemin de croix. Elle avait 3 enfants et elle m'a raconté surtout les rayons, tous les traitements qu'elle a subis.
Écoutez, Olivier, moi qui vous parle en ce moment, j'ai le cancer depuis 10 ans, vous entendez ? J'ai le cancer du poumon depuis 2010. On m'a fait l'ablation d'un poumon. J'ai rechuté maintenant. Enfin, j'ai eu l'opération, la chimio, le machin. J'ai rechuté en 2017 et je suis en thérapie ciblée jusqu'à la fin de mes jours.
Donc
bien
vous
que
savez...
tous les jours, j'ai de la chimiothérapie et je vis toute seule dans une chambre de 12 mètres carrés, n'est-ce pas ? Parce que je suis plus souvent couchée que debout. Alors, vous imaginez ma souffrance.
Oui, oui.
Parce que moi, le cancer, je sais ce que c'est. Et les traitements, comme vous me dites de votre amie, je sais ce que c'est.
Oui, oui.
Elle n'a pas aidé.
Et vous savez que ces traitements, ces traitements, ils ne sont pas vains, puisque vous êtes, vous êtes encore là, Juliette.
Vous saviez comment je suis malade.
On marque encore une pause, Juliette. À tout de suite.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h18, nous sommes toujours avec Juliette qui nous parle de sa petite fille ce soir, qui, si vous nous rejoignez juste à l'instant, qui souffre d'un cancer de l'utérus et qui ne veut pas se faire opérer et qui pense que des guérisseurs ici et là vont la sauver et l'attirer du côté de la force divine, hein, puisque on doit lui en raconter des sornettes à votre petite fille.
Oh là là.
Mais vous savez, on faisait donc allusion à cette anorexie mentale. Cette anorexie mentale, elle est sûrement là, bien ancrée depuis un long moment, puisque vous m'avez dit que cela faisait longtemps qu'elle était obsédée par son poids. Et finalement, elle a envie d'entendre tout ce que ces guérisseurs et certains nutritionniste lui raconte. Vous voyez, ça l'arrange. Elle a envie d'entendre ça. Et comme.
Et oui, ça l'arrange. Ils mettent de côté sa maladie.
Voilà. Et que toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir entendent bien ce que je vais leur dire.
Voilà, il faut faire un coup de gueule. Quoi.
Mais c'est tout simplement lorsqu'on va voir ces guérisseuses, ces guérisseurs, ils ne font, comme beaucoup de voyantes et de voyants, que raconter ce que l'on a envie d'entendre.
Voilà.
Et leur seule intelligence, leur seul pouvoir, le seul petit plus qu'ils ont, c'est peut-être un petit plus psychologique qui fait que ils savent, à un moment, analyser, décrypter la personne qui est en face.
Comment la prendre.
Voilà. Et puis avec deux, trois éléments. Et puis votre petite fille, elle doit être très vite, elle doit être facilement décryptable.
Elle
est quelque part, oui. Mais alors, revenons donc sur cette piste de. Vous savez, comme quelqu'un qui, vous savez, il y a des moments où on doit prendre une décision. Qui doit être prise par un tiers de la famille pour une personne qui est démente. Vous voyez, on doit saisir le préfet parce que quelqu'un n'est plus responsable. Alors, soit c'est une tutelle, et pour le préfet, c'est pour un internement. Hein. On entend assez parler de tout ça.
Voilà.
Là, il y a vraiment urgence, Juliette, dans votre famille. Vous êtes la grand-mère. Il faut que...
Je suis la grand-mère, la grand-mère est très, très inquiète.
Oui, mais il faut que vous provoquiez une discussion avec le père et la mère.
Oui.
Il faut que peut-être ils écoutent ce podcast aussi.
Ah, ils n'écoutent pas parce que quand j'ai bien ma fille est venue me voir ce soir puisque moi je suis couchée.
Oui.
Et j'étais donc avec, je ne sais plus maintenant, j'ai perdu le nom de cette jeune femme. Et je lui ai dit, ce soir, je vais passer l'antenne parce que je veux qu'on m'éclaire un peu, qu'on m'aide peut-être, voilà. Elle a pas été très, très ravie que je fasse cette démarche.
Parce qu'elle a peur.
Mais ça, c'est la même démarche que j'ai fait pour lui dire, dis au gynécologue ce qu'elle fait, et elle m'en a remercié. Et je pense que demain, je vais lui dire, tu écoutes en podcast, elle va pouvoir le faire, n'est-ce pas? Et comme ça, tu verras. Voilà, qu'est-ce que l'on m'a dit.
Alors, j'ai un autre SMS qui me dit pas de sauvegarde de justice, mais hospitalisation à la demande d'un tiers. Vous voyez, il y a quand même, Juliette, il y a quand même, de toute façon, il y a urgence pour votre petite fille.
Mais c'est non-assistance en personne en danger.
Exactement. Et je m'étonne vraiment, je vous le dis, je m'étonne vraiment que le père et la mère.
Que comme ils savent qu'elle n'entend rien de ce qu'ils lui disent, ils n'en peuvent plus de lui dire. Le père lui a dit, mais tu sais que, Julie, mais tu vas mourir si tu ne te fais pas opérer. Oui. Tu vas laisser ton enfant.
Mmh.
Et là, elle ne répond pas, quoi. Et c'est un mur.
Alors, il faut aller parler aussi au conjoint, là, monsieur...
Ah oui,
monsieur,
voilà.
La tête en l'air, là, qui pense d'un seul coup qu'il sort avec un mannequin.
Oui, qui veut être avec un mannequin.
Oui, parce que bientôt...
Ah oui, je l'attraperai, je vous assure
mais bientôt,
je ne ferai pas peur.
Mais il faut peut-être que vous disiez à votre gendre à votre fille de lui dire que bientôt, en fait, il sera tout seul aller au parc.
Exactement.
Hein, trimballer son enfant dans la poussette.
Bien sûr.
Et puis peut-être pour l'emmener sur la tombe de sa mère.
Voilà, exactement.
Ben ouais, mais vous savez...
Et c'est ça.
Il faut vraiment...
Il faut choquer.
Ben, il faut, en tout cas, appeler un chat.
Ouais. Exactement.
Et ça, j'ai l'impression que... Ouais. Voilà, ça n'a pas... À part vous, là, ce soir, qui vous décidez à nous appeler, il va falloir vraiment choquer un peu, en tout cas, essayer de rentrer un peu dans le tas et de secouer les adultes qui sont autour de cette femme qui, du haut de ses 31 ans, agit totalement comme une adolescente.
Maintenant, ce qui est grave, alors, on va s'arrêter là parce que j'ai monopolisé vraiment et je suis désolée de monopoliser l'antenne comme ça.
C'est
vraiment
assez grave,
pardonnez-moi.
Ça nécessite cela, Juliette.
Son petit garçon, elle l'amène chez le médecin, par exemple, pour une rhino. Elle va pas lui mettre les gouttes que lui a dit le docteur. Et voilà que le papa dit, de toute manière, avec ses forces, son petit corps, il va lutter. On n'a pas besoin de lui donner des médicaments. Il va le mettre cet enfant à l'école sans avoir les vaccins, avec des docteurs qui sont, qui font ces combines-là. Et maintenant, le pire de tout, et je vais arrêter là, c'est que comme elle ne mange plus, elle donne à l'enfant que des légumes, n'est-ce pas ? Elle ne veut plus donner un yaourt, plus de lait, plus de ci, plus de mie.
Plus de viande.
Plus de viande, parce que c'est la viande morte. Mmh. Et donc j'ai dit à ma fille, alors c'est encore moi qui me fais du souci, du haut de mes 76 ans et avec mon cancer, qui lui dit, quand tu as le petit à la maison, tu me fais le plaisir de le peser. Et la semaine d'après, quand tu l'auras, tu le repèses. Parce que là, elle est en train de lui couper sa croissance.
Je pense qu'elle est en pleine hystérie autour de son, voilà, de son anorexie mentale. Là.
C'est, et oui, parce qu'alors là, ça va loin. Ça va même sur le petit, quoi. Oui. Et le petit, il demande un yaourt. Et même si c'est un yaourt de brebis, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est, voilà, parce qu'il paraît qu'il est intolérant au lait. Mais elle n'a jamais fait faire. Alors ça aussi, c'est le truc à la mode, comme vous venez de dire tout à l'heure sur l'alimentation. C'est que maintenant, tout le monde est allergique au gluten, tout le monde est allergique au glucose, tout le monde est allergique à ci, à mi et au reste.
Mais vous savez, Juliette, c'est bien connu que dans le vieux monde dont nous faisons partie, nous sommes tous mourants. C'est bien connu.
Et bien sûr.
Nous qui mangeons des laitages, même de la viande. Moi, je ne mange pas de viande, mais alors c'est. J'en parlais ce soir, mais c'est par goût. Ça n'est pas,
ça n'est pas du tout
par mode ou par...
Non.
Parce que,
moi, il y a 10 ans que je n'ai pas mis un morceau... Bon. Je mange de la viande blanche, mais pas de la viande rouge, parce que ce n'est pas recommandé pour les gens qui ont le cancer. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, moi, j'ai un grand professeur qui me suit. C'est un professeur. Il ne m'a jamais dit, jamais, Olivier, de faire du régime. Jamais. Au contraire. Il me dit, mangez tout ce qui vous fait plaisir.
Oui, en tout cas, équilibré.
Il faut que j'ai la notion de plaisir.
Équilibré et surtout, voilà,
équilibré.
cette notion de plaisir
tout.
Qui, je le rappelle...
Et je suis assez intelligente pour savoir que je ne dois pas manger de sucre, trop de gras non plus, et etc. Et etc.
Voilà,
ce qu'on devrait faire chacun d'entre nous. Hein.
Modérément, ce qui,
fait
plaisir.
Voilà.
Juliette, je suis obligée de rester encore
un
petit peu
Olivier,
avec vous.
Attendez. Une piste,
Laissez-moi juste faire encore une pause et puis je vous reprends un petit peu encore après, d'accord ?
Oh, mais vraiment,
à tout de suite.
Merci.
La Libre Antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h29, vous êtes toujours sur votre radio, sur Europe 1, pour votre Libre Antenne. Et nous arrivons au bout du témoignage de Juliette qui nous parle de sa petite fille et de cette insouciance. On ne peut même plus parler d'insouciance, Juliette, concernant votre petite fille, parce que vous m'avez dit qu'elle avait échangé avec le chirurgien qui doit l'opérer, qui lui a bien fait comprendre que plus le temps avance... plus le cancer va s'étaler, va toucher d'autres organes.
Et d'autres organes.
Elle est vraiment donc.
Elle est anesthésiée.
En danger de mort.
Elle est anesthésiée. On dirait que son cerveau il ne fonctionne plus correctement.
Mais vous voyez, ce soir en fait, alors il y a peu de SMS, mais je m'attendais aussi à ces messages. Qui vont dans, je citerai celui de Clotilde, il y en a une dizaine comme ça qui dit oui mais il faut, pas Clotilde, excusez-moi, c'est Kat. Bonsoir, certes, mais on a le droit de refuser de se soigner quand on est malade. Bien sûr, Dieu. Kat, on peut décider
De tout,
vous avez raison, Kat, on peut décider de se laisser mourir, en fait, mais si vous avez bien écouté, Kat, le début de ce témoignage, je pense que vous n'avez pas saisi que cette jeune femme de 31 ans, maman d'un enfant, elle a envie de tout sauf de mourir. Et qu'elle est dans une insouciance et imaginez-vous cette femme en train de tourner la tête d'un côté ou de l'autre, mais de ne jamais regarder face à elle lorsqu'il s'agit de regarder la maladie en face, cette réalité qui est la sienne aujourd'hui, ce cancer. Voilà. Et je m'attendais à voir ce type de SMS. Vous savez, il y a certains adeptes toujours qui sont contre tout et contre le fait qu'on ne peut pas, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour dire qu'on doit forcer quelqu'un à se soigner, Kat.
Non, bien sûr que non.
Simplement dire aujourd'hui que lorsqu'on souffre d'une névrose assez grave comme cette jeune femme qui est obsédée par son poids depuis son adolescence et qui a été choquée par les réflexions des uns et des autres dès son enfance. Je le rappelle, quand on est appelée la petite sorcière, quand on est petite, je pense qu'on a une revanche à prendre sur la vie et sur tous les autres, là, tous ceux qui... Et on pense que c'est le monde entier qui nous a traités de petites sorcières.
Voilà.
Sauf qu'aujourd'hui, je pense vraiment, Juliette, il va falloir qu'on conclue, mais je pense vraiment qu'il faut que vous ayez une discussion avec votre fille et votre gendre.
Ben écoutez, je vais le faire dès demain.
Faites-leur écouter ce podcast.
Le podcast, voilà.
Voilà.
Essayez de leur dire. Moi demain j'ai un examen à faire et après l'examen, je vais à leur domicile et je leur dis voilà, on va écouter.
Juste, vous leur dites écoutez juste ça parce que j'ai appelé quelqu'un qui était complètement en dehors de tout ça, qui était neutre. Écoutez, écoutez ce qui s'est dit. Écoutez quelles ont été les réflexions des auditeurs qui écrivent au 739-21. Écoutez et prenez conscience que vous allez avoir une part de responsabilité dans la mort de votre fille parce qu'elle arrive à grands pas, cette mort.
Voilà.
Parce que le cancer de l'utérus, inutile de rappeler ici que c'est un cancer qui, lorsqu'il prend à 31 ans, c'est très jeune, il aura une évolution presque fulgurante à un moment.
Oui.
Donc il est grand temps que les vôtres, vôtres prennent une décision pour cette jeune femme.
Moi, on me dit que je m'inquiète trop, qu'on aura le temps de pleurer.
Oui, vous aurez le temps de pleurer, ça c'est clair.
Oui, j'aurai le temps de pleurer. Oui. Mais moi, je vis seule, Olivier.
Oui.
Et moi, comment vous dire, j'ai pas une famille autour, etc. Je suis moi et ma télévision et mon petit poste SNCF qui appartenait à ma maman.
Puis vous êtes la grand-mère.
Il y a 30 ans.
Ouais, vous êtes la grand-mère qui radote un peu et qu'on
n'écoute
pas.
Et moi, il ne faudrait pas que je pleure autant parce que moi, je suis malade moi-même. Donc, mais bien sûr, moi, je suis malade, mais moi, j'ai 76 ans et je n'ai plus d'enfants à charge.
Et puis, vous avez bien conscience des choses, Juliette.
Et puis, j'ai la conscience des choses, bien sûr.
Oui.
Et bien sûr.
Qu'on vit dans une chambre de 12 mètres carrés qu'on est malade et qu'on a 76 ans qu'on est bon à jeter à la poubelle.
Je vous dis, une chambre de 12 mètres carrés, mais vous savez, j'ai une maison magnifique avec piscine et tout. Là, là, je ne suis pas à plaindre, moi. Je suis une femme très, très gâtée de ce côté-là. Hein, voilà, je n'ai aucun problème. Vous voyez comment je vais vous dire. Voilà, j'habite à côté de ma fille. On est voisines, la porte à côté. Voilà, j'ai un grand jardin, j'ai la piscine, j'ai tout, je ne profite de rien. Il y a 2 ans et demi que je ne suis pas sortie de mon domicile à cause de ma maladie parce que je ne peux pas marcher pendant 10 minutes, je suis fatiguée. Et ma foi, je vous dis, je reste dans ma chambre de 12 mètres carrés le plus de temps que, des journées entières. Et puis après, je me ressaisis parce que j'ai beaucoup de volonté. Hein. Si on devait me donner un prénom, ce ne serait pas Juliette, ce serait Volonté, quoi. Et puis, ma foi, j'ai pas envie de mourir, moi, par contre, vous voyez. Malgré si ma vie ne vaut rien, mais ma foi, rien ne vaut la vie.
Oui, mais votre vie, elle vaut autant que les autres, Juliette.
Voilà,
Et puis
ma vie, elle est riche, parce qu'elle est riche dans ma tête.
Et puis, regardez Juliette, aujourd'hui, c'est ce soir, c'est vous qui décrochez le téléphone pour évoquer une situation des plus graves. Et pour vous, bien évidemment, en tant que grand-mère, mais j'ai du mal, vraiment, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment un père et une mère ne prennent pas le taureau par les cornes et ne mettent pas les yeux en face des trous de cette jeune femme.
Je pense qu'ils en ont peur.
Mais ils en ont peur, mais donc elle va mourir. Elle va mourir.
Voilà. Ils en ont peur.
Et ce compagnon-là,
qu'elle les écoute pas.
Ce compagnon qui est comptable, expert comptable et peut-être expert comptable, pardonnez-moi, mais il est
le roi des cons quand même.
Voilà, j'allais dire qu'il était un peu couillon, mais
Un peu couillon, mais moi je suis plus franco. Vous savez, moi je suis jeune.
Ouais.
Je suis la mamie rock'n'roll, comme me dit mon petit-fils de 14 ans.
Mais vous avez raison.
C'est la mamie rock.
Il y a pas d'âge pour être rock'n'roll, Juliette.
Je suis rock'n'roll parce que je suis lucide.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Ouais.
C'est mon côté rock à moi.
Juliette, vous essayez de me tenir au courant de
D'accord, je vous tiendrai au courant
dans les jours qui viennent.
Et en tous les cas,
Vous rappelez Natacha ? Vous rappelez Natacha ?
Voilà, je vous dirai comment ça s'est passé.
Et parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vous témoignent beaucoup de sympathie ce soir et qui demandent à savoir comment ça va se passer dans les jours qui viennent.
Écoutez, j'embrasse tout le monde et tous les gens qui ont appelé. Et surtout vous, Olivier, je vous embrasse très particulièrement, très affectueusement. Parce que, voilà, comme je vous écoute souvent, je sais aussi que vous avez eu beaucoup de malheurs dans votre vie, parce que vous êtes quelqu'un vous exprimez, quoi, voilà. Je sais que vous avez eu beaucoup de choses dans votre vie qui ont été très dures, et vous savez ce que c'est que de perdre quelqu'un, hein, de très cher. Et c'est pour ça que, vraiment, je vous embrasse et je vous remercie infiniment de toute l'écoute que vous avez voulu m'accorder ce soir.
Je vous embrasse, Juliette. Mais vous savez, on passe tous par ces événements-là, quoi qu'il arrive.
Voilà.
Nous n'avons ni moi ni personne le monopole du malheur. Hein,
voilà.
N'oubliez pas ça. Je vous embrasse bien fort et tenez-moi au courant. Allez. D'accord.
D'accord. Merci et bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.